C'est un message thématique ce matin. Des fois, on fait des messages. Généralement, on fait un passage de la Bible qu'on suit dimanche après dimanche, comme fait Patrick ces derniers temps avec l'évangile de Marc. Mais là, c'est un thème de du discernement qui avait été abordé dans une rencontre de responsables d'église en 2024 à Clermont-Ferrand. Alors c'est le troisième message sur ce sujet-là. Quand on regarde, bon, on est au 21e siècle, nous autres, et quand on regarde l'histoire de l'Église, des fois on se dit, oh là là, les chrétiens, ils ont fait ça, ou tel théologien, ben, il a dit de très très bonnes choses, mais aussi là, vraiment, on comprend pas comment il a pu glisser dans telle aventure politique, ou comment il a pu dire ces choses, prendre ces décisions. Et les historiens, nous disent, il ne faut pas juger les personnes qui ont vécu dans le passé avec les lunettes que nous avons au 21e siècle, parce que leur culture était différente. Et ça doit être pris en compte. Donc nous ne pressons pas de les juger. Le Seigneur va revenir, on ne sait pas quand, mais il va revenir, et si... dans un siècle, l'Église est toujours ici, sur terre. Commentent ceux qui nous petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, comment les chrétiens qui viendront plus tard vont nous juger, nous, chrétiens du début de 21e siècle. Quel regard ils auront sur nous, avec le recul du temps. Alors, que Dieu nous apprennent à être et nous gardent fidèles. Nous sommes influencés par notre culture. Jacques Nussbaumer, au dernier congrès de notre famille d'église, les CAEF, avait dit que la théologie est influencée par la culture. C'est une réalité. On a beaucoup de mal à se détacher de notre culture. On est ainsi. Alors, nous avons vu l'importance du discernement, de nourrir notre discernement. Nous avons vu l'importance, à travers la lecture personnelle de la Bible, c'était le premier des messages, à travers la fréquentation d'une église, les échanges avec les frères et sœurs, les interactions, le partage biblique, les échanges de compréhension. Et il y a également les apports de l'église universelle, c'est-à-dire ces personnes qui ont une influence, qui ont un travail, un ministère, on dit, qui vont toucher plusieurs églises, des évangélistes, des docteurs. Et ça c'était la première réunion, deuxième réunion, on a vu qu'il faut discerner qui me parle, et qu'est-ce qu'il me dit, le qui et le quoi. Quand un enseignement vient à nous, il y a tout un travail à réfléchir, mais qui est-ce qui me parle? Quels sont ses fruits? Quelle est sa vie? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce que c'est un homme, comme on dit, un homme inspiré par Dieu, qui est fidèle à Dieu? Et ce qu'il me dit, est-ce que c'est vraiment fondé sur la parole de Dieu? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que je peux recevoir, croire cet enseignement? Et donc, c'est un travail de réflexion qu'il faut faire. C'est pas évident. Aussi, j'avais posé comme recommandation que de ne pas aller au-devant d'enseignements. Mais des fois, il y a des enseignements qui se présentent à nous et il faut les évaluer. C'est du travail. Aujourd'hui, on va voir donc le discernement de la culture. Le discernement de la culture. Alors, dans la Bible, le Nouveau Testament, on présente l'Église. C'est la communauté de tous les croyants, de tous ceux qui croient dans Jésus-Christ. Et puis, il y a le monde, on appelle ça le monde, c'est-à-dire tous les autres. Et donc, l'ensemble vit dans une culture particulière. Nous avons notre culture ici, occidentale. On en parle beaucoup dans les médias. D'autres pays n'ont pas la même culture, on le sait. Mais dans tous les pays d'Occident, la France a sa culture propre. Et dans la France, ici dans le Lot, on a une certaine culture, et à Figeac, il y a encore une autre sous-culture. Donc voilà, on vit dans un contexte Et qu'est-ce qui, dans ce contexte, est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui va dans le sens de Dieu ou qui est notre? Et qu'est-ce qui ne va pas du tout avec l'enseignement du Seigneur? Alors pour ça, on va prendre un texte. Dans la première épître de Jean, Jean a écrit l'évangile de Jean, beaucoup plutôt pour faire connaître Jésus, pour l'évangélisation, ces choses ont été écrites enfin, que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et dans sa première épître de Jean, Jean s'adresse plutôt à des chrétiens, à des croyants. Et il a le souci de les affermir, de les faire grandir. Et donc ce texte, c'est toujours Jean qui l'écrit, l'apôtre Jean, mais il est dans un contexte de s'adresser tout particulièrement aux croyants, tandis que l'évangile s'adresse à tout le monde. Alors, donc, première épître de Jean, c'est juste avant le livre de l'Apocalypse, tout à fait à la fin. On trouve les lettres de Jean, les épîtres de Jean. Et donc là, on va lire le chapitre 2. On va prendre juste quelques versets. Jean chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Donc on a juste trois versets ce matin comme support pour réfléchir sur le discernement de la culture. Je lis dans la version seconde 21. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et le titre du message, ce sera « Discerner la culture pour discerner l'amour de Dieu ». Alors notre premier verset, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Aimer comme Dieu ou aimer comme le monde. Pour donner de l'amour, vous êtes d'accord avec ça, qu'il faut d'abord recevoir. On n'est pas capable de donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. Et il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour de Dieu, qui vient de Dieu, et il y a l'amour qui vient du monde. L'amour de Dieu, c'est un petit peu l'amour, je l'ai appelé AOC, appellation d'origine contrôlée. Et l'autre amour, l'amour du monde, était un amour d'importation. Alors, lequel nous voulons recevoir? Car l'amour que nous pourrons donner, c'est l'amour que nous allons recevoir. Alors l'amour AOC, l'amour qui vient de Dieu. Vous connaissez ce verset de Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À l'évangile de Jean qui s'adresse à tous. Dieu a tant aimé le monde. Et là, on vient de lire « N'aimez pas le monde ». Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il faut comprendre ça? Dieu est amour, affirme Jean. Dieu est amour. Et voici comment est l'amour de Dieu. On va lire 1er épître de Jean, chapitre 4, versets 7 à 11.
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est l'amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu nous a aimés et son amour est parfait.
Voilà. Dieu est amour, on vient de l'entendre, de le lire, et cet amour, l'amour de Dieu consiste à ce qu'il a envoyé son Fils unique, bien-aimé, pour nous racheter de nos fautes. Et c'est seulement qu'en recevant cet amour haussé que l'on va pouvoir aimer comme Dieu. En effet, Dieu demande, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la façon dont on doit aimer, c'est la façon de cet amour qui vient de Dieu. En croyant en Jésus, en étant justifié par la foi en son nom, en étant sanctifié par l'Esprit Saint, nous devenons enfants de Dieu. Nous recevons Jésus-Christ dans nos vies, selon l'expression, nous sommes nés de nouveau et nous pouvons alors aimer comme Dieu aime. Paul écrit en Romains chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et si nous avons reçu l'amour de Dieu, nous allons pouvoir aimer comme Dieu. L'amour, appellation d'origine contrôlée, l'amour de Dieu. Mais le monde ne reçoit pas l'amour de Dieu. Dans son évangile, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 5 et 10 à 13, on lit ceci.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.
Verset 10 à 13.
Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Ce qui définit le monde, c'est qu'il ne reçoit pas l'amour de Dieu. Par définition, le monde n'a pas reçu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est donc absent du monde. Et si nous recevons l'amour qui vient du monde, nous allons aimer comme le monde. Et si nous recevons l'amour qui vient de Dieu, nous allons aimer comme Dieu. Alors il ne faut pas s'attendre à recevoir ou avoir l'amour de Dieu si nous recevons l'amour du monde. Le monde ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Le monde ne reçoit pas l'amour de Dieu. Il ne peut pas le donner. Il n'est pas non plus possible d'aimer Dieu avec l'amour qui vient du monde. Ce sont deux amours qui sont différents, qui sont incompatibles, qui ne sont pas de même nature. L'épître de Tite nous parle de l'amour du monde, de la condition des hommes dans le monde. Et il est assez sévère. Tite chapitre 3, versets 3 à 5.
Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés pour la cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur.
Haïssant et nous haïssant les uns les autres, c'est quelque chose de terrible, mais bon, voilà comment Paul présente l'amour de Dieu en 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7.
Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point, il ne semble point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il croit tout, il aime tout, il supporte tout.
Amen. Donc, notre verset dit, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il y a donc un amour interdit, c'est l'amour du monde. Nous ne devons pas recevoir l'amour du monde pour ne pas aimer comme le monde aime. Nous devons recevoir l'amour de Dieu pour aimer comme Dieu aime. Et ensuite donc, le deuxième verset, verset 16. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, l'orgueil du haut richesse, vient non du Père, mais vient du monde. Donc, voici cet amour contrefait ici, l'amour qui vient du monde, qui est présenté. L'amour made in monde nous aguiche. Je ne sais pas le mot qui est utilisé maintenant. À une époque, on disait le mot draguer. Le monde nous drague. Et il le fait dans trois domaines. La convoitise qui est dans l'homme. La convoitise de notre nature rebelle à Dieu. Il y a en nous une nature qu'on appelle parfois charnelle, et qui s'oppose à Dieu, qui n'est pas animée par la vie de Dieu. Elle est en nous, notre corps en est atteint. Et voilà quelques exemples. Nous avons naturellement des appétits sexuels quand on est adulte. Recevant du monde sa sexualité, nous allons convoiter la sexualité du monde. Si je prends l'exemple de la pornographie, pour le monde, la pornographie ne convient pas aux enfants, mais cela convient aux adultes. Mais pour Dieu, tout ce qui n'est pas convenable pour un enfant n'est pas non plus convenable, évidemment, pour un adulte. Alors, regardez de la pornographie et vous aimerez la pornographie. Regardez de la pornographie et vous aimerez la pornographie. Nous sommes aussi enclins à la facilité et non à l'effort, naturellement. Et le monde propose un chemin large et facile dont le Seigneur Jésus a parlé. Il parle d'un chemin étroit qui mène à la vie. Mais le monde lui propose ce chemin large, même s'il sait qu'il ne mène nulle part. Nous sommes sujets à la peur, à la honte et à la solitude. Et le monde propose ses moyens de secours, des pratiques de toutes sortes pour faire taire et oublier notre mal intérieur. Il y a toutes sortes d'activités, toutes sortes de choses. Il y en a un qui est à la mode et qui grimpe dans notre société, c'est le cannabis. Fumez le cannabis et vous allez aimer le cannabis. Nous sommes aussi enclins à la domination. Prenez du pouvoir et vous ne voudrez plus lâcher ce pouvoir. Il y a une multitude de façons de prendre du pouvoir sans être chef d'un État. On est entouré d'exemples de personnes qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Les convoitises de notre nature rebelle nous cherchent à nous séduire, à nous faire la cour. Le désir de posséder ce que l'on n'a pas, c'est le 2, la convoitise des yeux. Le monde agite sous nos yeux tant de choses qui semblent aimables, tant de choses qui nous disent « Je vais te donner du bonheur, aime-moi ». Le commandement de Dieu, le 10e, est catégorique. Tu ne convoiteras pas, et ce commandement nous met à l'abri de bien d'autres péchés comme le vol ou l'adultère. Si nous sommes enfants de Dieu, est-ce que Dieu, notre Père, ne va pas pourvoir à tous nos besoins? Si nous sommes nous-mêmes des parents, si nous avons des enfants, est-ce que nous ne sommes pas dans un grand souci de pourvoir pour vos enfants à ce qu'ils ont besoin? Et le Père céleste qui est parfait ne fera-t-il pas beaucoup, beaucoup mieux que nous? Matthieu chapitre 6, verset 31 à 34, qui c'est qui pourrait le lire, comment le Seigneur nous a parlé de tout ce que nous avons besoin.
Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Le désir de posséder des choses, cette séduction fait concurrence à l'amour de Dieu qui a été semé en nous par le Saint-Esprit. Hein, vous connaissez la parabole du semeur et l'explication qu'en a donné Jésus. Hein, cette graine qui tombe dans les herbes, qui l'étouffe. Il a dit les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Et la convoitise des yeux peut aussi pervertir la piété de la foi. Les valeurs chrétiennes deviennent alors des moyens de s'enrichir. On lit ça, Paul met ça en évidence en 1 Tite chapitre 6 verset 6 à 10. 1 Timothée 6 verset 6 à 10. 1 Timothée 6, 6 à 10.
C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tours.
Le désir de posséder. Le troisième Troisième chose que le monde nous propose, c'est l'orgueil du haut richesse. J'ai appelé ça la vie bling bling. La vie bling bling. Le mot vie désigne aussi les biens qui permettent de vivre que de la vie, hein, dans les textes de la Bible. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde, c'est la vie de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? La vie bling bling, l'orgueil de la vie, tout ce qui est clinquant, tout ce qui est de l'apparence, du tape à l'œil, ce qui est superficiel, creux. Et notre monde fonctionne là-dessus. C'est ce qui compte, c'est l'apparence, c'est la façon dont on, l'image que l'on montre aux hommes. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, on affiche beaucoup d'images de nous, s'afficher heureux ou bien triste. C'est parfois des obligations sociales, même si notre état intérieur était bien différent. Cela nous plonge dans une grande détresse et une grande frustration, une grande solitude, que de montrer une image que l'on n'est pas. Quand je cherche à recevoir l'amour des hommes, je devrais me conformer aux critères des hommes, du monde des hommes, et non aux critères du royaume de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, comment aimerions-nous ce qui est sans valeur aucune pour notre Père Céleste? Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4.
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.
Alors comment se caractérise cet amour maintenant qui est en circulation dans le monde, cet amour contrefait? C'est le verset suivant, le verset 17, qui nous dit « Or le monde passe, sa convoitise aussi ». Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Notre texte le dit clairement, le mot, l'amour du monde passe. Cela passe. La satisfaction de notre chair va passer. Il faut en avoir confiance. Un jour, nous mourrons. Et là, ce sera fini. Notre corps sera définitivement hors d'usage, hors de service. Il ne pourra plus faire ni bien ni mal. Et un jour, tout le monde comparaîtra devant Dieu, où seront passés en revue ce qu'a été notre vie, ce que nous en avons fait. Et la question à laquelle il faudra trouver une réponse, qu'as-tu fait de Jésus? Qu'as-tu fait de mon amour? Notre chair et ses désirs vont passer, et que restera-t-il de nous? La satisfaction de notre chair va passer. La vitrine du bonheur du monde change aussi. Et c'est curieux de voir que ce qui est à la mode maintenant va être périmé demain. Ce qui était valable hier ne l'est plus aujourd'hui. Hein? Le monde change, les vêtements changent, les voitures changent, les règles de santé changent, les loisirs changent. Et quand on regarde des films d'avant ou des passages, on se dit, mais on voit ces gens-là, par exemple, dans les années 60, tout ça. Ça n'a rien à voir avec nous. On se dit, mais vraiment, ils ont l'air tellement farfelus dans leur habillement, dans leur motivation. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient à s'exciter comme ça? Le monde passe, ses convoitises aussi, la vitrine du bonheur du monde change. L'orgueil de la vie passe. On a plein de cimetières dans notre pays, c'est très intéressant de les visiter. On est parfois contraint de les visiter, mais je trouve que visiter un cimetière de temps en temps, c'est très instructif pour notre âme. Il y a des tombes là, de tombes de toutes sortes. Bon, l'ancien patron, Angèle de la Ballina, il y a quelques années, il visait le cimetière et les cimetières sont remplis de gens indispensables. Moi, ce qui me fait réfléchir le plus, ce sont les grands caveaux, des grands imposants, mais on n'arrive pas à lire les textes qui sont dessus tellement ils sont effacés par le temps, on devine. Voilà, de leur temps, c'était des grandes personnes qui ont été enterrées là. Mais maintenant, le temps est passé. L'orgueil de la vie passe. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Fait remarquer l'Ecclésiaste dans ses réflexions dans nos Bibles. Chapitre 7, verset 2. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais, c'est les fameux mais qui sont importants dans la parole de Dieu, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, et mon Dieu, et n'aimons pas le monde. Et mon Dieu, et n'aimons pas le monde. Nous serons ainsi équipés pour discerner la culture. On pourrait être tenté d'aller dans un endroit où, pour vivre une vie d'ermite. On est tout seul, on est tranquille, on est loin des tentations du monde et de son vacarme, de son tracas et de son brouhaha. Mais c'est pas ce que souhaite le Seigneur. Il a dit que nous devons être, que nous sommes la lumière du monde, que nous sommes le sel de la terre. Le sel, ça se mélange et la lumière, ça éclaire. Et il n'est pas possible de mettre une lumière sous un boisseau. Non, il doit être bien en place pour bien éclairer. Et le sel ne doit pas perdre de sa saveur. Il doit être là, efficace, pour son rôle de conservation et de donner du goût. Il nous faut donc discerner dans la culture ce qui fait concurrence à l'amour de Dieu, ce qui veut séduire, voler Dieu, la position qui est de Dieu. Il faut identifier dans la culture ce qui est inacceptable, qui est incompatible avec l'amour de Dieu, avec le royaume des cieux. Et il faut aussi discerner ce qui est au contraire acceptable, là où nous pouvons rejoindre nos contemporains et leur montrer Jésus. Il nous faut du discernement. Je vais prendre quelques exemples. Dans notre société, on l'appelle la société de consommation. Et notre culture nous incite à remplir au maximum le caddie quand on fait des courses. Et plus on a le caddie plein, plus dedans il y a de bonheur. Et ce bonheur, on va le remplir partout dans notre maison. On va remplir notre maison de toutes sortes de choses censées nous donner le bonheur. Et voilà, on a des fois les placards pleins, la maison pleine de biens de consommation. On jette, on remplace, on recycle. C'est la machine économique du monde qui doit tourner ainsi. Mais Jésus, lui, nous dit de dépenser pour le royaume des cieux. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21.
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
Voilà, là où sera ton trésor, là sera ton cœur. L'autre point de notre culture, c'est la culture fast-food. On est vraiment dans la culture du rapide, de l'instantané. Avoir tout de suite, être servi rapidement, ne pas gaspiller de temps. On a une question, on tape sur Google, on a la réponse tout de suite, bien détaillée, autant de questions se posent, autant on a de réponses. On a un travail intellectuel à faire, hop, on a maintenant l'IA qui est là pour faire ce travail à notre place. Ça arrive, c'est déjà là, paraît-il. Voilà, l'instantanéité, le fast-food. On veut aller vite. Et lui, Dieu, ne cesse de nous faire ralentir. et parfois même nous immobiliser pour qu'enfin on se mette à réfléchir. On a eu la crise du Covid. C'est une belle illustration, mais Dieu a une multitude de façons de nous immobiliser des fois dans nos vies et de façon des fois qu'on peut trouver violente. Lire la Bible, réfléchir, méditer. Les apprentissages sont là. On met 25 ans avant de pouvoir rentrer sur le marché du travail. C'est très long, 25 ans, 25 ans d'éducation. Mais pour les choses spirituelles, notre culture fast-food nous laisse imaginer que voilà, c'est tout de suite. C'est le Saint-Esprit est là, il va me révéler ce dont j'ai besoin. Voilà, hein, on a un fonctionnement Google, un petit peu dans notre façon de réfléchir, et c'est pas ça du tout. Lire la Bible, réfléchir, méditer, chercher les applications pour nos vies, c'est très lent. Prier, c'est très lent. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider, mais ces choses doivent se faire lentement. Pourquoi ? Parce qu'ainsi, il y a un travail en profondeur qui se fait en nous, qui ne peut pas être fait de façon superficielle. C'est vrai que pour comprendre la parole de Dieu, il y a des livres, des commentaires, il y a des podcasts, où le pasteur vous répondra. On a une question, on a tout de suite la réponse. C'est très utile, mais réfléchir par soi-même, méditer, passer du temps avec la parole de Dieu va faire un travail intérieur, indispensable à notre transformation. L'objectif de Dieu n'est pas que nous ayons la tête pleine. L'objectif de Dieu est que nous ressemblions à Jésus, que nous ressemblions à Jésus. Et donc notre culture de l'instantanéité n'est pas là pour nous aider à apprendre la patience. La patience pour nous et la patience pour les autres. Et la patience, on l'a entendu tout à l'heure, c'est un fruit du Saint-Esprit. C'est là pour l'acquérir. La protection sociale, donc notre culture, on l'appelle l'état de providence. Et bien sûr, ça fait penser que ça peut être un concurrent avec le Dieu de Providence. Sécurité sociale, moi je suis admiratif, c'est une très bonne chose. Hein. Elle permet aux plus pauvres d'avoir le même soin que le plus riche. Être traité de la même manière dans les hôpitaux, pouvoir bénéficier des mêmes médicaments, c'est extraordinaire. La retraite par répartition, c'est très beau. Principe que les jeunes générations vont cotiser, vont pour que les aînés qui ne peuvent plus travailler puissent vivre. L'assurance chômage est une bonne chose, hein, une caisse commune pour aider ceux qui ont perdu leur travail. Mais le danger, c'est que de remplacer la solidarité de cœur par la solidarité du droit, ou de remplacer la confiance en Dieu par la confiance à l'État. Mais il y a des choses dans une culture qui peuvent être très bonnes, quoique souvent perverties. Alors, rappelons-nous en conclusion combien Dieu nous a aimés en nous donnant son Fils chéri. On prend le repas du Seigneur régulièrement pour nous souvenir de ces choses-là. Nous souvenir de l'amour de Dieu. Recevoir cet amour de Dieu, être rempli de son amour pour pouvoir le déverser à notre tour. Ne recevons pas l'amour du monde et n'aimons pas le monde, mais aimons avec l'amour de Dieu nos concitoyens, notre prochain qui lui est dans le monde. Aimons avec l'amour de Dieu notre prochain qui est dans le monde. Et pour cela, il faut discerner ce qui compose la culture, même la culture chrétienne. Qu'est-ce qui est mondain dans ma culture? Qu'est-ce qui flatte ma nature charnelle? Qu'est-ce qui flatte mes yeux? Qu'est-ce qui relève du bling-bling, de la, du, de l'apparence, de la crainte des hommes, qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va passer? Et qu'est-ce qui est éternel? Qu'est-ce qui est dans ma culture acceptable? Qu'est-ce qui me permet de rejoindre mon prochain pour lui parler de Jésus, pour lui parler de l'amour de Dieu? Voilà ce qui est important, me semble-t-il, pour chacun de nous. Alors, je dirais, il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait dire sur notre culture. Ben, on va voir la semaine prochaine, Dieu voulant, le discernement des esprits. Et là, c'est encore notre paire de manches, un autre sujet, mais qui nous touche de très 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 près. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les recommandations de l'apôtre Jean, des choses que nous ne devons pas aimer. Et il nous met en garde contre ces choses qui sont des leurs qui vont passer. Or, l'amour de Dieu est éternel, éternellement. Il va nous aimer. Il ne nous lâchera pas, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous tournera pas le dos, il ne changera pas à notre égard. Il nous aime maintenant. Il nous aime hier et il nous aimera toujours. Merci pour cet amour véritable, authentique, qui est différent de l'amour qui fonctionne dans le monde, qui ne connaît pas Dieu, qui ne l'a pas reçu, cet amour, pour en être transformé. Seigneur, merci de nous avoir permis de connaître ton amour, de nous avoir ouvert les yeux sur la personne de ton Fils Jésus-Christ que tu as donné pour nous, comme un acte d'amour pour toujours. Nous devons nous souvenir de cela. Combien cela t'a coûté, combien tu nous aimes, combien tu as aimé le monde. Aide-nous, Seigneur, à être des témoins pour ce monde, puisque tu n'as pas souhaité nous enlever du monde, mais nous envoyer dans le monde comme Jésus avait été envoyé lui aussi. Équipe-nous de ton amour. Donne-nous le discernement, ou pas jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain, mais de voir, Seigneur, les personnes, de pouvoir arriver à les rejoindre là où elles sont, pour leur parler de toi, de la façon dont elles puissent comprendre. Merci, Seigneur, parce que tu traverses toutes les frontières, il n'y a pas de culture dans lequel tu ne puisses pas pénétrer avec ton amour et avec ton message de l'évangile. Tu l'as fait tout au jour des âges, des personnes complètement éloignées de notre culture se sont tournées vers toi dans la face de toute la terre. Ils ont été touchés par ton amour, ils ont compris qui tu étais et ils ont accepté de vouloir ressembler à Jésus. Merci Seigneur de faire répandre ton amour dans notre monde qui en a tant besoin. Dans le nom de ton Fils. Amen. Amen.